Europe 1,
13h, 14h,
les carnets du monde.
Virginie Salmen.
Bonjour et bienvenue dans les carnets du monde. C'est parti pour une heure de vadrouille aux quatre coins de la planète, à grand renfort de son. Voilà le programme de nos escales. D'abord un tout petit village du nord de l'Espagne où les rares habitants sont tentés par le nouveau parti d'extrême droite Vox. Sa particularité, il prospère via une page Facebook. Jusqu'ici, l'Espagne était l'un des seuls pays d'Europe épargnés par la percée de l'extrême droite. Et puis, escale croisée Grèce, Allemagne, France, avec une série télévisée qui démarre ce jeudi sur Arte et Eden de Dominique Moll. 6 épisodes très forts, ça parle des réfugiés et de l'impact de leur arrivée dans la vie quotidienne des Européens qui les accueillent. Dans ces carnets, nous recevons l'un des plus grands écrivains contemporains, l'Égyptien Ala El Aswani, qui va nous raconter comment son pays est en train d'être verrouillé par les militaires. Son dernier roman a été interdit. Un coup de cœur cinéma, Tremblement, ça se passe au Guatemala, un pays où les homosexuels sont homophobes, pression de l'Église oblige. Et nous plongerons dans la beauté de l'hémisphère sud, Joseph Chauvanet qui a croisé des tortues nées sous Napoléon. Si, si, allez, on ouvre ses carnets. Et on ouvre ses carnets avec ce scrutin important qui se tient aujourd'hui en Espagne. Les électeurs votent pour la troisième fois en quatre ans. Ce sont des législatives anticipées et il y a un parti qui cristallise toutes les peurs. Un tout jeune parti nommé Vox, c'est l'extrême droite des réseaux sociaux qui a commencé à essaimer au départ via une simple page Facebook il y a quelques mois et qui a réussi à faire entrer 12 députés en décembre lors d'élections régionales au Parlement d'Andalousie, jusqu'ici bastion socialiste. Vox surfe essentiellement sur le thème de la ruralité, la défense des traditions espagnoles. La formation s'inspire de Trump aux États-Unis et de Bolsonaro au Brésil. Elle séduit dans les zones rurales et dépeuplées avec ce slogan « L'Espagne vide ». Les sondages créditent Vox de 10 à 15% des voix. Henri de Laguérie s'est rendu dans la province de Palencia, à 350 km au nord de Madrid, à la rencontre des électeurs.
À la barre du café où il a ses habitudes, Carlos Hernandez, smartphone à la main, montre au serveur des photos du meeting de Santiago Abascal. La veille, le leader de Vox a fait salle comble à Palencia, capitale de l'une des provinces les plus dépeuplées d'Espagne. Ingénieur agronome, Carlos, 37 ans, milite pour la jeune formation d'extrême droite.
L'année dernière, Santiago Abascal était déjà venu faire un meeting ici. J'y étais, mais on n'était que 30. Alors évidemment, hier, c'était incroyable. Beaucoup de gens n'ont pas pu rentrer, mais on a vu des gens heureux, pleins d'espoir. C'était impressionnant.
Jusqu'aux dernières élections, Carlos votait pour les conservateurs du Parti populaire, faute de mieux. Avec Vox, il dit avoir trouvé une formation sans complexe.
Ils défendent une façon de vivre qui m'a été transmise par mes grands-parents, par mes parents. Ils ont défendu la corrida quand elle a été attaquée par Podemos, par le monde écologiste et animaliste. La chasse, c'est pareil. Moi, je suis chasseur. Bon, ils voulaient interdire la chasse. Mais si on nous supprime nos traditions et nos coutumes, l'identité espagnole sera plus la même. On en a assez d'être méprisés. Et le monde rural est complètement oublié.
Loin des grandes villes, les traditions occupent ici une place très importante. En agitant la menace de leur disparition, l'extrême droite touche une corde sensible. Carlos tente de convaincre ses amis et ses proches de voter pour Vox. Le serveur semble déjà conquis. Le parti marginal, il y a encore quelques mois, pourra réaliser une percée spectaculaire et devenir la troisième force du pays.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Après le café, Carlos nous emmène à bord de son utilitaire dans le petit village de Portillejo, là où se trouvent plusieurs de ses clients. Il vend aux agriculteurs des produits phytosanitaires. C'est Ricardo, éleveur de vaches, qui nous accueille devant son hangar.
Tu sais, ici, le plus jeune du village, c'est moi, et j'ai 60 ans. On est seulement 12 personnes.
Dans cette région surnommée l'Espagne du vide, la densité ne dépasse pas 9 habitants au kilomètre carré. Aucun pays en Europe n'a connu pareil exode rural. Carlos est donc une exception, c'est le seul de sa génération qui est resté.
L'immense majorité est partie, il n'y a pas de travail, les services publics ont presque disparu. Pour aller à la pharmacie, il faut faire 20 km. Et dans beaucoup de petits villages, le médecin ne vient plus. Et ça m'inquiète. Moi, j'aime ce territoire, ça me ferait de la peine si dans quelques années, les maisons s'effondrent.
À Portillejo déjà, la moitié des maisons sont vides. Mais le village s'anime lorsque les agriculteurs du coin se retrouvent pour l'apéro autour d'une table au soleil. Au menu, comme chaque jour à midi, charcuterie, fromage et vin rouge. La politique est au cœur des conversations. Ricardo a toujours voté à droite, mais cette fois-ci, il hésite.
Ils ne se souviennent de nous que lorsqu'il faut glisser un bulletin dans l'urne. Dans ces moments-là, ils nous promettent des tas de choses. Je crois qu'on nous a abandonnés. Et je fais partie de ces 40% de gens indécis qui ne savent pas pour qui voter. En tout cas, ça ne sera pas pour ceux qui sont au pouvoir.
Finalement, quand on insiste, Ricardo reconnaît qu'il se laissera sans doute tenter par Vox. Un peu plus loin, Thomas ne cache pas son désarroi.
J'ai voté toute ma vie pour le Parti Socialiste, mais là, je crois que je ne voterai pas pour eux, parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, notamment toute cette histoire catalane. Il y a des choses qu'on ne peut pas négocier.
En juin dernier, le socialiste Pedro Sanchez, favori de ces élections, a renversé le gouvernement de droite avec le soutien des séparatistes. Cette alliance de circonstances est restée en travers de la gorge de Thomas, qui a vécu la tentative d'indépendance de la Catalogne comme une attaque personnelle.
Ça nous a blessés, moi et la majorité des Espagnols. Comment imaginer que ça ne va pas nous blesser? Ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. C'est pas parce que certains défendent un projet particulier qu'ils doivent pouvoir prendre une décision qui affecte toute l'Espagne.
Thomas ne votera pas pour Vox, mais pour lui, seul ce parti défend réellement l'unité de l'Espagne. Carlos, le militant convaincu, l'affirme, le séparatisme catalan est selon lui la principale menace qui pèse sur le pays, loin devant l'immigration, car il tient à le préciser, ce problème ne le concerne pas. À Portillejo, en Castille, Henri de la Guérie, Europe 1.
Et on vous retrouve, Henri de la Guérie, en ligne pour quelques explications supplémentaires, mesurer tout l'enjeu de ces élections qui ont lieu aujourd'hui. Bonjour Henri.
Bonjour Virginie.
Alors on vient d'entendre ces potentiels électeurs du nouveau parti d'extrême droite Vox qui grignote assez rapidement une partie de l'électorat. Pour l'instant, c'est l'actuel Premier ministre socialiste Pedro Sanchez qui est le favori des sondages, mais il n'est pas certain du tout d'avoir une majorité qui lui permette de gouverner.
Oui, c'est ça. Alors, sauf énorme surprise, il arrivera en tête ce soir. Rappelons qu'il gouvernait en minorité et c'est parce qu'il n'a pas réussi à faire passer son budget qu'il a convoqué des élections anticipées. Grâce à lui, en tout cas, eh bien, le Parti Socialiste retrouve une seconde jeunesse dès son arrivée au pouvoir il y a près d'un an. Sanchez a frappé un grand coup en acceptant d'accueillir les 630 migrants de l'Aquarius. On retiendra aussi dans son bilan qu'il a augmenté le SMIC de 22%. Enfin, rappelons que deux tiers de ses ministres étaient des femmes. Mais c'est vrai, ce soir, vous l'avez dit, il sera très loin de la majorité absolue. Alors pour gouverner, eh bien, il devra obtenir le soutien de Podemos, la gauche radicale, mais aussi sans doute des partis régionaux, dont les indépendantistes catalans. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué. Les séparatistes vendront cher leur peau. Et puis Pedro Sanchez sera soumis à la pression de la droite et donc de l'extrême droite qui refuse la moindre concession à ceux qu'elle qualifie ici de putschistes.
Alors un an et demi après la tentative ratée d'indépendance, la Catalogne a été et reste le principal sujet de la campagne.
Oui, la droite a fait du dossier catalan son principal angle d'attaque contre Pedro Sanchez, accusé, je cite, de trahison pour avoir dialogué avec les séparatistes ces derniers mois. Et puis c'est vrai, on ne peut pas comprendre la percée de cette extrême droite sans cette tentative de sécession. Le nationalisme de Vox est une réaction à l'indépendantisme catalan.
Alors Vox, justement, c'est la nouveauté de ce scrutin, ce petit parti qui a émergé à l'automne dernier d'une simple page Facebook. Est-ce qu'ils peuvent vraiment créer la surprise?
Ben oui, pour la première fois depuis la fin de la dictature de Franco, l'extrême droite aura des députés. 10, 15, 20% des voix. Les sondeurs, il faut dire, ont eu beaucoup de mal à estimer le résultat de cette formation qui arrivera peut-être ce soir en troisième position. Ce serait ici un séisme. En tout cas, tout est possible. Et si l'arithmétique le permet, le parti pourrait conclure une alliance post-électorale avec la droite pour prendre le pouvoir. Partout où il est passé, le leader de Vox, Santiago Abascal, a déplacé les foules. Ouais. Et dans ses discours, il s'en prend avant tout aux féministes, aux écologistes, à cette gauche progressiste. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il s'oppose au mariage homosexuel et à l'avortement. Et il compte parmi ses soutiens d'anciens militaires franquistes.
Une
justement.
Vraie extrême droite. Hein.
Effectivement. Et alors c'est vrai, il est hostile à l'immigration, mais c'est peut-être une exception en Europe. Il n'en fait pas vraiment l'axe principal de sa campagne.
Alors Henri, un dernier mot sur l'état économique de l'Espagne. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé dans cette campagne.
Ouais, c'est vrai, l'économie est passée au second plan. On s'en souvient tous, hein, l'Espagne était au bord de la faillite il y a quelques années. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va mieux, même si tout est loin d'être parfait. Depuis 2014, l'Espagne a renoué avec la croissance. Elle atteindra 2,5% cette année. Le déficit public est enfin passé sous la barre des 3%. Le chômage a baissé, même s'il atteint 14,5% de la population. On parlait de 24% en 2012.
Oui, d'accord. Alors, ce scrutin, c'est législatif anticipé. Vers quelle heure est-ce qu'on aura les premiers résultats?
Alors, les premiers sondages sortis des urnes vers 20h à la fermeture des bureaux de vote. Mais selon les résultats, les scores, eh bien, faudra peut-être attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour connaître le nom du prochain Premier ministre espagnol. C'est la particularité de ce genre de scrutin à la proportionnelle.
Donc, encore un peu de patience. Merci, Henri de la Guerry, correspondant d'Europe 1 en Espagne. À bientôt dans les carnets.
À bientôt, Virginie.
Europe 1.
Dans un instant, comment parler des réfugiés autrement via l'impact de leur arrivée sur la vie quotidienne des Européens qui les accueillent. Une série forte et éclairante réalisée par Dominique Moll, à voir cette semaine.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, on écoute le monde changer avec vous, Virginie Salmen.
Et on plonge maintenant dans une fiction qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est un thème d'une actualité brûlante, une série sur les réfugiés qui affluent en Europe. Elle s'appelle Eden, série en 6 épisodes, qui va démarrer la semaine prochaine sur Arte, réalisée par Dominique Moll, à qui on doit entre autres le film Harry, un ami qui vous veut du bien. Et ce qui est très original dans cette série, c'est qu'elle prend l'angle des répercussions sur la vie quotidienne des Européens qui les accueillent, ces réfugiés. Alors ça se passe en Grèce, en Allemagne, puis en France. Donc on suit successivement une famille d'Allemands, le père Jürgen, la mère Silke et le fils Florian qui hébergent un jeune Syrien, Bassam, deux gardiens du camp de réfugiés, la directrice de ce camp, un ado nigérian en cavale. Il y a aussi un couple de Syriens avec leur fille. Lui est médecin, il fuit le régime d'Assad. Des trajectoires donc très différentes. Bonjour Dominique Moll.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de cette série très forte qui sera diffusée jeudi prochain, le 2 mai, pour les 3 premiers épisodes. Alors ça n'est pas dans vos habitudes de traiter des sujets d'actualité. Celui-là est particulièrement délicat. Est-ce que vous avez eu des craintes de porter un sujet aussi lourd, aussi délicat ?
Oui, évidemment, il y a des risques. Enfin, on a toujours peur de ne pas être à la hauteur du sujet. Enfin, d'autant plus que c'est un sujet, comme vous disiez, d'actualité brûlante, enfin, qui évolue en plus de jour en jour. Donc, oui, enfin,
mais vous avez
j'y suis
accepté.
Pas allé. Oui, j'ai accepté parce que je trouvais ça important de s'attaquer aussi à ce genre de projet, de les traiter en fiction, de sensibiliser les téléspectateurs à travers cette fiction à toute cette problématique.
Justement avec le prisme de la vie quotidienne et de l'impact sur les gens qui accueillent. Alors on va écouter un extrait du film, de la scène d'ouverture. Ça se passe sur une plage de l'île de Chios en Grèce. Alors c'est une île qui se trouve très loin au large de la Grèce, dans la mer Égée, plus près finalement des côtes turques. Et donc sur cette plage où les touristes se prélassent, un père de famille allemand va acheter des glaces pour sa femme et son fils. Scène de vacances classique. Quand tout à coup le fils repère un bateau, une sorte de zodiaque chargé de dizaines de personnes. Voilà, on entend le bruit du moteur qui ralentit. Des dizaines de réfugiés qui vont sauter dans l'eau et partir en courant sans même regarder la plage. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, au départ, cette série, Dominique Moll, c'est pas votre projet personnel, c'est une commande, c'est bien ça ?
Bah, au début, c'était une commande, puisque c'était un projet qui avait été développé depuis 2 ans, quand moi, j'ai été appelé à prendre le relais. Donc, effectivement, au début, c'était une commande, mais c'est devenu un projet très, très personnel, finalement. Enfin, au fur et à mesure que je me suis plongé dedans, que j'ai travaillé dessus, oui.
Alors il y a une scène étonnante dans le tout premier épisode, c'est le fils de la famille allemande qui accueille un jeune Syrien, donc Bassam. Ça se passe pas très bien entre les deux garçons, rivalité, jalousie. Un soir, Florian, le fils allemand, débarque à table au dîner couvert d'un hijab, un voile islamique.
Flo, à table.
Allahu Akbar.
T'es cinglé.
Flo, enlève ça. On veut bien me servir. Flo, enlève ça tout de suite, s'il te plaît.
Florian, c'est pas un jeu.
Ben non, c'est un hijab. Si tu veux, tu peux manger seul dans ta chambre.
Attendez, mais il faut se détendre. Nous voulons que notre hôte se sente chez lui, non ?
Un peu de tradition, ça fait pas de mal.
Seules les femmes le portent.
Non.
Oui, les femmes musulmanes.
Mais c'est un truc de musulman.
Oui, mais je suis pas religieux.
Ah, Flo, ça suffit, enlève-le. Et excuse-toi.
Mais alors, on entend la dispute familiale. Est-ce que vous pouvez nous décrypter cette scène? Parce que finalement, on a l'impression que tout le monde sait qu'un hijab, c'est un accessoire féminin. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette scène?
Ah bah, c'est juste une provocation de la part de l'adolescent allemand dont les parents, après avoir été témoins de cette première séquence qu'on a entendue tout à l'heure où des réfugiés débarquent sur la plage en Grèce, se disent il faut faire quelque chose et donc ils décident d'accueillir chez eux un jeune réfugié syrien. Mmh. Et malgré toutes leurs bonnes intentions et leur envie de bien faire, ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça, et notamment par rapport à leur fils qu'ils n'ont pas vraiment consulté, qui du coup se trouve un peu bêtement et de façon un peu immature en concurrence avec le jeune Syrien, et donc multiplie les provocations pour provoquer ses parents.
D'accord. Alors, ce qui fait la richesse de votre série, c'est l'attachement qu'on peut avoir aux personnages. Ils sont d'abord très variés. Il y a Amaré, le jeune Nigérian, adolescent, bien élevé, d'une gentillesse absolue, qui est en cavale. Un couple de Syriens, donc dont le mari est médecin et qui débarque dans le 18e arrondissement de Paris, dans un appartement vide prêté par un ami. Tous ces acteurs qui parlent l'arabe, vous m'avez dit le Igbo, ce sont juste des comédiens ou est-ce qu'ils sont, ils ont été eux-mêmes à un moment réfugiés?
Alors, en ce qui concerne les Syriens, ce sont des comédiens syriens qui étaient comédiens dans leur pays, qui se sont engagés dans la révolution en Syrie, qui ont été, enfin notamment Jalal Altawil qui joue le personnage de Fares, emprisonné à deux reprises, torturé, enfin qui a dû fuir pour sauver sa peau, enfin qui ont vécu des choses très très dures. Le jeune homme syrien accueilli par la famille allemande, Adnan, est lui aussi un réfugié syrien qui est arrivé il y a 3 ans en Allemagne. Pour nous, enfin dans le développement de l'écriture, c'était très important de pouvoir échanger, notamment avec les comédiens syriens qui nous ont aussi donné beaucoup de détails et décrit des situations qu'on a pu intégrer dans le scénario.
Comment vous les avez castés alors, ces comédiens?
C'était un peu un coup de chance parce qu'au début, on a eu beaucoup de mal. Enfin, moi, j'avais envie que ça soit des comédiens syriens pour un souci de véracité. Donc, il y a un des personnages qui est joué par une comédienne libanaise, mais dont l'arabe est quand même très très proche de l'arabe syrien. Et au début, on trouvait pas. Donc, c'était finalement par des connexion, je sais pas, quelqu'un nous a dit tiens, il y a une petite communauté de comédiens syriens qui vit à Troyes et qu'on a donc contacté. Et en fait, c'est des gens qui étaient très connus dans leur pays parce pas que dans leur pays, parce que les séries syriennes étaient très populaires dans tout le monde arabe et qui maintenant vivent en situation d'exil et évidemment ont plus de mal à trouver du travail en France.
D'accord, donc effectivement des comédiens réfugiés. Alors justement, il y a une scène poignante avec eux, une scène qui illustre bien le sentiment aussi de déclassement de ces réfugiés. Quand ce couple syrien, la femme du couple, se demande ce que va devenir leur vie, elle interroge notamment le terme de réfugié. On l'écoute.
Où irons-nous dans 3 mois?
Je ne sais pas. On trouvera autre chose.
Tu trouveras un travail comme médecin?
Je suppose. Mais il faut le statut de réfugié.
Il paraît que ça prend des mois.
Oui. Mais Eric nous aidera à accélérer la procédure.
Réfugié. Quel drôle de mot.
Voilà, je précise que les traductions ont été faites par des journalistes de la rédaction d'Europe 1 qui ont bien voulu se prêter au jeu. C'est en arabe dans la série. Justement, c'est des moments de vérité comme ça parce que vous avez choisi des comédiens qui ont eux-mêmes vécu l'exil. J'imagine que dans cette scène particulièrement, ça transparaît.
C'est vrai que ce terme réfugié, C'est un côté un peu réducteur. Enfin, on parle des réfugiés, c'est d'abord quand même des êtres humains. Et c'est, le terme réfugié les réduit comme ça, une espèce de statut de façon un peu étrange. Et le pari de la série, justement, c'était parce que dans les médias, les infos, on parle tout le temps des réfugiés comme une espèce de masse anonyme. Et donc, nous, ce qu'on avait envie, c'était de mettre des visages pour montrer que cette masse est constituée de personnes, d'individus qui ont chacun leur histoire, leur espoir, leur peur, leurs défauts, leurs qualités, comme nous tous.
Et qu'on range tous sous ce mot de réfugié, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous, comme réalisateur, comme citoyen français, vous avez appris de plus précieux ? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ce tournage, justement, sur ce thème des réfugiés ?
J'ai appris beaucoup de choses, enfin, même si, évidemment, j'essaye de me tenir informé, mais ça reste quand même très... toujours un peu à la surface et générale. Et le fait de se plonger sur des cas précis de tout le travail de documentation et de recherche qu'on a fait permet quand même de d'appréhender beaucoup mieux le sujet, de comprendre ce que ces personnes vivent, et notamment par rapport aux fantasmes et aux peurs que ça peut susciter auprès de des gens en Europe, qui ont toujours l'impression que ces gens viennent parce que vont pouvoir nous piquer les prestations sociales ou je sais pas quoi. Et en fait, ils ont juste envie de trouver un endroit où ils peuvent vivre en sécurité. Et la plupart des réfugiés syriens, par exemple, auraient loin préféré rester en Syrie et vivre là-bas. Et c'est juste pour sauver leur peau qui part. Ça, ouais.
Merci beaucoup, Dominique Moll, d'être venu dans les Carnets du Monde. Je rappelle que votre série Eden sera diffusée pour les 3 premiers épisodes à partir de jeudi prochain, jeudi 2 mai. Merci.
C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup.
Dans un instant, un père de famille qui découvre son homosexualité dans un pays dominé par l'église évangéliste. Ça se passe au Guatemala. À tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les Carnets du Monde.
Europe 1, les Carnets du Monde.
Comme chaque dimanche sur Europe 1 avec vous, Virginie Salmen, il est 13h23, c'est l'heure d'un film dans le monde, pas de Nicolas Carreau cette semaine.
Cette semaine, Nicolas Carreau a pris un peu de repos, on a donc appelé Mathieu Charrier à la rescousse pour qu'il nous fasse...
un remplaçant de luxe
pour qu'il nous fasse découvrir un film étranger. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors vous nous avez déniché un film du Guatemala, ça s'appelle... Tremblement, au pluriel.
Oui, tremblement pour les tremblements de terre que subit la région de façon récurrente et qui se produisent, en l'occurrence, lorsque notre héros, Pablo, 40 ans, homme bien sous tout rapport, évoque son homosexualité. Voilà, c'est le sujet du film. Pablo, c'est un homme intégré dans la société, de bonne situation. Il est marié à une très jolie femme, d'ailleurs. Il a 2 très beaux enfants. Mm-hmm. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf qu'un jour, Pablo va rencontrer Francesco. Mm-hmm. Il va en tomber amoureux et donc découvrir à cette occasion son homosexualité. Alors, à partir de là... Dans un film classique, je dirais entre guillemets, Pablo aurait dû affronter sa famille et ses amis pour vivre son nouvel amour au grand jour. Des films comme ça, on en voit un paquet. Sauf que, c'est tout l'intérêt de Tremblement, c'est qu'en fait, Pablo va décider de se soigner. Je mets des guillemets, ce sont évidemment ses mots.
Wow.
Parce que dans la société guatémaltèque, l'homosexualité est considérée par beaucoup comme une maladie, encore aujourd'hui. Mmh. Et ce sont, figurez-vous, les églises évangélistes qui soignent ces homosexuels. Extrait de la bande-annonce.
Écoutez-moi et dites la première chose qui vous vient à l'esprit.
Amour.
Famille.
Dieu.
Père.
Anormal.
Moi.
C'est une épreuve, mon chéri. Mais tu es fort.
Tu fais quelque chose pour guérir ? Je sais qu'au fond, tu n'es pas comme ça.
Il se rend compte de la situation dans laquelle il met la famille.
Ouais, vous entendez le vocabulaire, hein, guérir, soigner.
Ouais, on imagine la scène un peu là-dedans. Éprouvante.
Ouais. Et c'est vraiment saisissant comme film. Et franchement, vous allez passer par différentes phases, on va dire, de l'étonnement à la révolte pendant les 1h40 que dure ce long métrage.
Alors, on imagine, Mathieu, que ce film raconte une réalité au Guatemala.
Et bien sûr, il faut savoir que là-bas, 98% de la population est croyante et que ce sont donc ces églises évangélistes qui structurent la société, qui décident en gros ce que vous avez le droit de faire ou non et qui décident donc, en l'occurrence, que l'homosexualité est une maladie. D'ailleurs, ce n'est pas un film sur l'homosexualité en tant que tel, mais vraiment sur le poids de la religion et des institutions religieuses dans le pays. Mmh. Écoutez, Jero Bustamante, c'est le réalisateur.
C'est un pays assez dangereux. C'est un pays dont l'État, je ne dirais pas qu'il est inexistant, mais presque pour les citoyens. Et donc, du coup, il y a toutes ces institutions qui viennent remplacer ce dont l'État devrait offrir. Les crèches, par exemple, les endroits où on peut sortir, faire du sport, être en sécurité, mais même des boîtes de nuit, c'est-à-dire il y a des christothèques où on peut aller danser sur la musique des dieux. Mais quand on prend un Uber, par exemple, vous voyez dans la fiche du conducteur qu'il marque s'il est religieux. C'est pour ça que ça va être compliqué la sortie du film au Guatemala, parce que les gens ne peuvent pas prendre un film pareil comme un film de société. Ils vont le prendre comme un attaque contre Dieu.
Oui, d'ailleurs, le réalisateur a eu du mal à trouver des acteurs qui acceptaient de camper ces rôles. Tant le sujet est tabou, ils avaient peur des réactions ensuite de la population.
Oui, on imagine avec les christothèques, ça ne doit pas être facile tous les jours au Guatemala. Alors pourtant, il s'est inspiré d'une histoire vraie, vous me disiez.
Oui, qu'il résume assez bien d'ailleurs. L'histoire, écoutez, d'un homosexuel homophobe.
Ah.
Pendant 4 ans, je fais une étude avec 22 Pablo qui m'ont raconté leur vie. Et ce qui a été intéressant, c'est tout d'abord qu'ils utilisaient des femmes pour construire une façade qui était fausse. Ils se montaient à eux, ils montaient à leur famille, ils montaient à la société. Mais ils montaient sous l'accord de leur propre famille et de leur église, presque sous l'invitation de leur église à mentir. Mais l'homophobie entre les homosexuels est très forte aussi, parce que on croit encore que les homosexuels sont des abominations.
Vous avez testé ces séances où les religieux essaient de transformer les homosexuels ?
Oui, ça s'appelle thérapie de conversion. Mais elles sont toutes formées en 3 étapes. D'abord, c'est l'humiliation et l'étape psychologique, dont on doit se rendre compte qu'on va mal. En 2e, c'est la sociétale, dont on doit se rendre compte tout ce qu'on va perdre au-dessus des autres. Et la 3e, c'est la physique, dont on va jusqu'à la castration temporaire. C'est vraiment un lavage des cerveaux global.
Oui, c'est étonnant, c'est tout ce qu'il raconte, cette homosexualité homophobe assez présente, pas du tout rare dans le pays.
Oui. Et les Pablo, comme il dit.
Oui, il dit 22 Pablo à un moment.
22 Pablo, c'est 22 homosexuels, voilà, il les appelle les Pablo.
D'accord, du nom de son personnage.
Exactement.
Donc.
C'est ce qu'on... Vous savez, le cinéma, on voit beaucoup de films, hein, et c'est vraiment ce qu'on aime dans le cinéma, c'est que lorsqu'il y a une histoire comme ça, romanesque, avec du suspense, qu'il y a des vrais suspens, on se demande pendant tout le film s'il va aller jusqu'au bout de cette homophobie, entre guillemets, s'il va vraiment renoncer, si on peut dire ça comme ça, à son homosexualité pour sa femme, pour ses enfants. Donc il y a ce côté suspense, mais aussi évidemment du vrai, c'est ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire un cinéma qui raconte notre société. C'est évidemment le cas de ce tremblement, donc au pluriel, qui fait beaucoup réfléchir. Allez le voir, ça sort mercredi prochain.
Tremblement, donc, du réalisateur guatémaltèque Jero Bustamante. Merci Mathieu Charrier.
Avec plaisir.
À bientôt.
Europe 1.
Dans un instant, nous recevons un grand monsieur, l'écrivain égyptien Alaa El Aswany, connu dans le monde entier. Il viendra nous parler de son pays qui s'enfonce dans une nouvelle dictature.
Europe 1, les carnets du monde.
On vadrouille sur Europe 1 et maintenant à 13h30, on va changer de continent, Virginie Salmen.
Direction l'Égypte, où l'état des libertés individuelles s'aggrave de jour en jour. Le régime mené d'une main de fer par le maréchal Al-Sissi se durcit encore. Ce militaire, ancien chef du service des renseignements, est arrivé au pouvoir par un coup d'état en 2013, 2 ans à peine après la révolution égyptienne de la place Tahrir, et il est en train de verrouiller le pays. Il se prépare à une présidence à vie. Pour toucher du doigt le quotidien des Égyptiens, nous recevrons dans un instant l'un des plus grands écrivains contemporains, auteur du célèbre immeuble yacoubian, l'auteur égyptien Alaa El Aswany, qui vient d'apprendre qu'il est poursuivi en justice par le parquet général militaire, notamment pour insultes envers le président. Son dernier roman, J'ai couru vers le Nil, est interdit en Égypte. Mais d'abord, direction le Caire, où la censure des auteurs, des comédiens, des journalistes et même des auteurs de séries télé s'accroît. Que peut-on encore écrire ou dire aujourd'hui en Égypte ? Reportage de la correspondante d'Europe 1 sur place, Ariane Lavrieux.
2 écrans diffusent en permanence des émissions de télé qui flattent le régime. Nous sommes dans le bureau de l'avocat Samir Sabri, un des plus fervents défenseurs du président Al-Sissi. Chaque mois, il dépose des dizaines de plaintes contre des artistes, écrivains, juges anticorruption qui critiquent le régime. À 67 ans, il dit agir par amour pour l'Égypte sans aucun ordre officiel. Sa dernière cible est une star de la pop. Lors d'un concert à l'étranger, Sherin avait lâché qu'en Égypte, ceux qui parlent ouvertement sont envoyés en prison.
Pourquoi tu prends la parole à l'étranger pour salir l'Égypte ? Pourquoi ? Tu n'es pas dans ton bon droit. Parce que tu n'as pas le droit de diffuser des fausses informations. Dire que ceux qui s'expriment vont en prison, c'est faux. Uniquement ceux qui disent des mensonges vont en prison. C'est au juge ou au syndicat des artistes de dire si tes paroles sont vraies ou fausses. Je ne suis pas contre la liberté d'expression, mais les mots sont comme des actions. Ils peuvent détruire ton pays, parce que ça donne des arguments aux ONG et aux organisations humanitaires pour attaquer l'Égypte.
De plus en plus, la justice donne raison à cet avocat. Suite à une de ses plaintes, l'acteur franco-égyptien Amr Waqt vient d'être condamné à 9 ans de prison pour avoir insulté l'État alors qu'il réside en Europe.
Nous sommes condamnés par le tribunal militaire pour exprimer notre opinion. Ça, c'est vraiment indicatif de la situation de la régime qui peut rien tolérer. Et je trouve que ça, c'est le début de son chute. Je suis en contact avec tout le monde en Égypte et je vois un changement énorme dans la tolérance de la injustice. La colère, c'est la même situation qu'on avait janvier 2011. Ça, c'est l'espoir que je vois monter.
Cette répression ne s'appuie pas que sur quelques supporters zélés du régime, mais aussi sur tout un nouvel arsenal de lois qui criminalise la moindre critique exprimée dans les médias et réseaux sociaux. 500 sites internet sont bloqués et publier ce que le régime considère comme de fausses informations est un crime, à tel point que l'Égypte est devenue une des plus grandes prisons du monde pour journalistes. Mohamed travaille dans un quotidien, la peur au ventre.
Les services de renseignement contrôlent tout notre travail. Désormais, tous les journaux doivent être envoyés à un représentant de l'État avant d'être imprimés. C'est pour ça qu'il y a des jours où les unes sont toutes les mêmes. Dans chaque journal, il y a un censeur qui nous contrôle. À chaque instant, même si je n'écris pas, j'ai toujours l'impression que quelqu'un voit ce que je lis, m'enregistre, voit les messages privés que j'envoie sur Facebook. Même au café, je ne suis pas tranquille.
À la télévision aussi, les censeurs ont pris le pouvoir. Les autorités dictent les scénarios des séries, l'armée et la police doivent avoir le beau rôle et des sociétés de production de l'État ont écrasé la concurrence, à tel point que cette année, le nombre de séries a été divisé par 2. Il y a tout de même un secteur qui résiste, la littérature. Abdallah Haïs dirige la maison d'édition indépendante Maharoussa et a trouvé quelques parades.
Quand les autorités ne veulent pas d'un livre, elles menacent les libraires. C'est arrivé avec 2 de nos livres, un roman qui parle d'un général fou et de manifestants qui campent sur une place pour réclamer leurs droits. On a eu aussi ce livre intitulé « 58 histoires de la Révolution ». Ils ne sont pas interdits, mais on ne les trouve dans quasiment aucune librairie. Alors on les vend via Internet, sous forme d'e-book. La plupart des lecteurs aujourd'hui sont les ados et les jeunes adultes de 13 à 30 ans. Ils veulent en savoir plus sur la Révolution qu'ils n'ont pas tous vécue. Ils veulent s'informer hors de la télévision parce qu'ils savent très bien que c'est n'importe quoi.
Résultat, malgré les intimidations, ces deux romans politiques sont des best-sellers, preuve que l'échec politique de la Révolution n'a pas étouffé la curiosité intellectuelle de la jeunesse, au contraire. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Et on accueille maintenant l'écrivain Alaa El Aswany, de passage à Paris ce week-end. Bonjour.
Bonjour.
Quelle chance que vous soyez ici. Merci de faire un crochet par les studios d'Europe 1 pour nous raconter cette Égypte qui s'enfonce dans l'obscurantisme. Alors, je rappelle que vous avez connu le succès international avec votre livre « Immeuble Yacoubian » paru en 2002, traduit dans près de 40 langues. Vous êtes dentiste de profession, votre cabinet se trouve au Caire. Depuis que votre dernier roman « J'ai couru vers le Nil » publié chez Actes Sud est interdit en Égypte, j'imagine, on en parlera, que vous n'avez pas pu soigner beaucoup de patients depuis quelques mois. Vous êtes poursuivi dans votre pays par le parquet général militaire pour insultes envers le président, les forces armées et les institutions judiciaires pour des chroniques que vous avez écrites sur le site de la radio allemande Deutsche Welle. Et pour ce dernier roman, justement, qu'avez-vous écrit dans ces chroniques et dans ce livre qui déplaît tant au régime ?
Moi, j'ai écrit la vérité et j'ai écrit ce que je pense. Pour la fiction, c'est une fiction, mais quand même, Il s'agit de la révolution égyptienne que j'ai vécue, alors je connais exactement ce qui se passe, j'ai vécu, j'ai vu les gens, j'ai vu les victimes, j'ai vu le massacre.
Mais vous étiez sur la place Tahrir.
Absolument, et après la place Tahrir 2011, les massacres par les autorités contre les révolutionnaires, ils ont continué. Alors j'ai écrit ça, j'ai décrit ça. Et ça a été trop pour eux parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que c'est le rôle de l'écrivain de faire ça. C'est le rôle du romancier. Et aussi, j'ai écrit des articles sur la dictature militaire et comment la dictature militaire toujours finit par des catastrophes. Et pourquoi, vous voyez ?
Des papiers d'opinion, pour le coup.
Absolument. Dès que M. Sisi est arrivé au pouvoir, j'ai été la première semaine interdit de la télévision. Après 2 semaines ou 3 semaines, j'ai été interdit de tous les journaux égyptiens, je ne peux plus écrire. Ils m'attaquent tout le temps à la télévision en m'accusant d'être, je ne sais pas quoi, CIA, Mossad,
C'est-à-dire un agent américain ou israélien,
oui,
c'est ça?
Oui, alors on essaye de détruire mon image publique et après les gens ne font plus confiance, n'ont plus confiance.
Mais c'est pas une censure forcément directe, c'est détourné. Par exemple, vous ne pouvez plus animer de séminaire.
Non, je ne peux plus parce qu'ils ont arrêté tout le monde. Ils ont arrêté les gens, le public qui venait dans les séminaires. Ils ont arrêté le journaliste qui filmait mes séminaires chaque semaine et mettait les séminaires sur YouTube. Il est maintenant en prison. Alors, les gens, ils ont peur et maintenant, je ne peux plus le faire.
D'ailleurs, comment est-ce qu'on vous a signifié que vous étiez poursuivi par le parquet général militaire ? Comment ça se passe ? Vous recevez une lettre ?
Non, non, mais on ne fait pas ça en Égypte. Hein. Mais vous n'avez pas de droit. Hein. Vous devez aller au tribunal militaire pour chercher. Vous voyez comment on sait à travers un article, à travers des nouvelles dans les journaux. Parce que...
C'est comme ça que vous l'avez appris ?
Oui. C'était un grand article, Egypt Today, et il a décrit tout. Et on ne peut pas dire, on peut pas écrire n'importe quoi, parce que tout ce qui est publié après la permission de la sécurité.
D'accord, donc c'est un moyen de détourner, de vous faire savoir que vous êtes poursuivi,
oui,
mais vous n'avez pas été informé directement.
Oui, mais j'ai refusé d'envoyer mon avocat, et j'ai refusé d'aller, parce que, pour deux raisons, parce que moi je suis contre cette histoire, je ne peux pas être poursuivi devant un tribunal militaire parce que j'ai écrit quelque chose, un roman, et aussi parce que ça ne sert à rien, parce que dans la loi militaire, le monsieur Sisi, il a le droit de tout faire, de diminuer la peine, ou doubler la peine, ou d'annuler la peine, ou d'annuler le tout.
Est-ce que vous savez quelles sanctions vous encourez si vous êtes poursuivi, si vous êtes jugé,
vous
savez
exemple,
ce que...
Je vous donne un exemple. Il y a Khaled Lotfi, qui est un jeune libraire. Il a vendu un exemplaire d'un livre qu'il ne savait pas que c'était interdit. Et il a été poursuivi devant un tribunal militaire. Et la peine était 5 ans en prison.
D'accord.
5 ans en prison.
Donc
pour
il est en prison aujourd'hui.
Un seul exemplaire. Il est en prison. Mais le livre est partout. Moi, j'ai lu le livre en Amérique. Et ils ont fait même un film sur le livre. Alors, ça ne sert à rien de l'interdire. Et lui, le pauvre, il ne savait pas.
Alaa Al-Aswani, où est-ce que vous vivez aujourd'hui ?
Je vis à New York. Je vis à New York parce que quand j'étais interdit d'écrire en Égypte, alors j'ai commencé à accepter des invitations pour enseigner littérature dans les universités américaines. Et chaque fois, j'enseignais et je rentrais. Je rentrais avec des difficultés, ils me gardaient toujours à l'aéroport, ils m'embêtaient et tout. Mais cette fois, mes avocats ont dit, écoute, parce que je voulais rentrer aussi.
C'est-à-dire depuis la poursuite ?
Oui,
ça ?
Oui, ils ont dit, attends un peu, attends.
Parce que votre famille vit toujours en Égypte ?
J'ai une fille avec moi qui va continuer ses études en Amérique et l'autre fille finit ses études au Caire et ma femme, et elles viennent pour me voir.
D'accord. Et elles peuvent circuler sans problème ? Est-ce qu'elles sont menacées elles-mêmes ?
Tout le monde est menacé en Égypte. Tout le monde. C'est pas... Mais jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont embêté ma fille avant, ils ont créé, fabriqué un accident de voiture et... pour la mettre en prison et c'était trop compliqué. J'étais au Caire et j'ai défendu ma fille, mais c'était vraiment terrible.
Parce qu'elle est votre fille, j'imagine.
Exactement,
vraiment,
le juge a posé les questions. ton nom, elle a dit son nom, Neda Alel Aswani, et la peine était une semaine en prison, mais on a arrêté la peine. Mais de toute façon, c'était...
Pour un accident de voiture, hein. C'est ça, pour un accrochage.
Elle, c'est pas sa faute, parce que le rapport original de la police est disparu. Et ils ont écrit un nouveau rapport.
Vous êtes dentiste de profession. Au départ, vous avez un cabinet au Caire, donc un cabinet
jusqu'à
à côté.
Enfin,
vous avez toujours votre cabinet à côté de votre bureau d'écrivain. Alors, est-ce que vous, jusque-là, vous arriviez, parce que la pression, elle démarre pas le mois dernier, et vous continuiez à soigner des patients en même temps que vous écriviez et que vous subissiez la pression du régime, tout ça en même temps?
Ah oui, j'étais toujours comme ça. Ça aide beaucoup l'écriture, vous voyez. Parce que vous avez besoin de faire quelque chose d'autre.
Mm-hmm.
Je me réveille très tôt, j'écris 6 heures. J'écris dès 7 heures le matin jusqu'à 13 heures. Et après, je deviens dentiste. Et ça aide beaucoup, hein, parce que vous êtes indépendant, je suis indépendant. J'ai jamais été payé par le gouvernement égyptien, par les gouvernements égyptiens.
Et aussi, parce qu'il y a les écrivains qui sont payés par le gouvernement égyptien.
Ah, ça a une influence énorme. Mmh. C'est vraiment ça, les dictatures. Ils veulent vraiment acheter les écrivains. Vous voyez, moi, j'ai été toujours un problème pour eux parce que j'étais toujours payé ou par mes lecteurs ou par mes patients. Vous voyez, alors j'étais indépendant. Et aussi, c'est une expérience. Vous voyez les gens, vous écoutez vos patients. C'est très utile d'être dentiste et romancier.
Alaa El Aswani, on poursuit cet entretien dans un instant. Nous serons en ligne avec Ariane Lavrieux depuis le Caire qui va décrypter pour nous le dernier vote plébiscite en faveur d'Al-Sissi. A tout de suite.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Avec vous, Virginie Salmen, sur Europe 1, 13h44. On vous retrouve en compagnie de votre invité, l'écrivain égyptien Alaa El Aswani.
Alors, ce régime que vous venez de nous décrire dans ses dérives les plus totalitaires, Alaa El Aswani, il risque de durer puisque Abdel Fattah al-Sissi vient de faire voter une révision de la Constitution qui, en résumé, pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030 au moins. On va retrouver notre correspondante au Caire, Ariane Lavrieux. Ariane, vous pouvez nous expliquer pourquoi Al-Sissi a modifié la Constitution? Quel est son objectif?
Alors, l'objectif numéro un, c'était de rester au pouvoir, hein, vous l'avez dit, parce qu'il devait partir en 2022 à la fin de son second mandat. Et maintenant, il va pouvoir se représenter une troisième fois et donc rester président jusqu'en 2030. Aujourd'hui, Abdel Fattah al-Sissi a 64 ans, il en aura 75 en 2030. Il s'est octroyé aussi de nouveaux pouvoirs, notamment sur la justice. C'est lui qui va nommer les procureurs généraux, les présidents des principales cours, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel. C'est important parce que certaines cours étaient les derniers lieux de contre-pouvoir ou du moins qui s'étaient un peu permis de contester certaines décisions du président. Donc là, on a vraiment une mainmise sur la magistrature perd toute autonomie. Un des objectifs de Sissi dans cette réforme constitutionnelle, c'était d'éliminer, non pas l'opposition parce que ça c'est déjà fait, mais d'éliminer les potentiels concurrents à l'intérieur même du régime. Et l'armée aussi étant ses pouvoirs, jusqu'à maintenant, elle pouvait juger des civils qui s'en prenaient à elle directement ou qui la critiquait comme votre invité Alaa El Aswani. Désormais, un civil peut se retrouver dans une cour martiale même s'il ne porte qu'indirectement atteinte à l'armée. Concrètement, ça veut dire que plus personne n'est à l'abri d'un procès militaire, donc encore plus opaque, injuste que les procès civils. Et comble de l'ironie, un nouvel article de la Constitution précise que l'armée est désormais garante des libertés individuelles et de la démocratie.
Merci Ariane Lavrieux en ligne du Caire. Comment vous expliquez ça, Alaa El Aswani? 88% des électeurs en faveur du maintien d'Al-Sissi au pouvoir, ça représente plus de 26 millions d'Égyptiens. C'est la peur qui fait voter?
Oui, moi, je ne fais pas confiance à ces résultats parce qu'on a l'habitude en Égypte dès 1952 de dire n'importe quoi. Vous voyez, A, B aussi. Monsieur Sissi n'a pas changé la Constitution. Monsieur Sissi a détruit, a annulé la Constitution. Parce que dans la Constitution, c'est très clair. Le président n'a pas le droit de changer 4 ans et 4 ans.
Vous voyez, deux mandats, pas plus.
Deux mandats, pas plus. Et c'est très clair. Et si le président essaye, ça veut dire que ça sera contre la Constitution.
Ouais, ouais.
Vous voyez, aussi le référendum, ils ont acheté les pauvres. On a beaucoup de vidéos. Hein. les pauvres venaient...
Ils ont acheté les voix des pauvres.
Des pauvres par de la nourriture. La nourriture, vous voyez.
C'est-à-dire
sucre, de... Les gens sont vraiment pauvres.
Mais on va offrir du sucre ou des denrées de première nécessité aux pauvres pour qu'ils votent en faveur de la Sissi.
Absolument. Et aussi, il y avait des gens qui ont été obligés d'aller. Tous les fonctionnaires, tous les gens qui travaillent dans les ministères, ils ont été obligés d'aller.
D'accord, un vote obligatoire, sinon ils perdent leur emploi.
La police arrêtait dans la rue, on a beaucoup de témoignages, arrêtait les autobus et prenait les cartes d'identité des gens et obligeait les gens d'aller voter. Vous voyez ?
D'accord, sous peine de ne plus avoir de papier.
Absolument. Alors ça, si vous pensez que c'est un référendum, moi je ne le pense pas.
D'accord, là les 88% s'expliquent très nettement. Alors, Alaa El Aswany, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre la révolution en Égypte et ce qui se passe actuellement, la mobilisation historique du peuple en Algérie ? Est-ce que le peuple algérien peut faire tomber ce régime ? Est-ce que vous voyez des similitudes ?
Absolument, parce que j'ai dit dans des articles, j'ai dit dans des interviews, même ici en France, que la révolution, c'est un changement qui va continuer, même si ce n'est pas visible. Et aussi, il y a question de génération, parce que la plupart, 60% des jeunes arabes sont au-dessus de l'âge de 40 ans, vous voyez. Alors, moi, je pense que tous les régimes arabes sont finis. Ils sont finis, mais ça prend du temps, vous voyez. Alors, vous voyez ce qui se passe maintenant. Ils ont arrêté la révolution en Égypte, ils ont fait une guerre civile en Syrie, à Libye. Alors, il y avait une autre révolution par les Algériens et les Soudanais. Ça va continuer.
Et donc vous pensez que le...
Absolument, je suis optimiste, oui.
Ouais. Votre avenir, votre vie, où est-ce que vous allez vivre ? Comment vous allez vivre loin de votre pays longtemps ? Qu'est-ce que vous imaginez ?
Bon, je ne sais pas. Hein. Je reçois toujours des invitations pour enseigner dans les universités. Je suis bien... j'aime bien rentrer chez moi, mais maintenant la situation est devenue trop compliquée. Et pas seulement question de me mettre en prison, parce que j'ai pas peur, parce que j'ai beaucoup d'amis en prison. La plupart de mes amis sont en prison. Mais maintenant, j'écris en Égypte avec difficulté.
Ah oui.
Alors, quand je sors, j'écris mieux. Et c'est le contraire de ce qui s'est passé avant. C'est qu'avant, quand je rentrais, j'écrivais mieux.
Chez vous ?
Oui. Mais maintenant, c'est le contraire. Parce qu'il y a tant... L'atmosphère est terrible. Ce n'est pas question de prison. C'est qu'il y a de mensonges partout. Il y a la dictature. Il y a vraiment de l'oppression. Et c'est vraiment... C'est très lourd pour un écrivain, vous voyez.
Oui, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un derrière le dos en permanence.
Absolument.
Votre prochain livre, vous êtes en train de
l'écrire. J'ai fini déjà un livre sur la dictature. Mais c'est un livre, ce n'est pas un roman. Vous voyez ?
Oui, un essai.
Alors j'ai fini, ça va être traduit, parce que entre un roman et un autre, je ne peux pas finir un roman pour commencer un autre.
D'accord.
Je dois écrire quelque chose.
Pas de roman à la chaîne.
Oui, je dois écrire quelque chose entre un roman et un autre. Alors j'écris un livre sur la dictature, le syndrome de la dictature, ça va être publié à Londres en anglais, et je pense que ça va être traduit en français aussi.
Il sort quand ?
En anglais, dans quelques semaines.
D'accord. Et en français, on sait pas.
En français, mais on doit avoir le temps pour la traduction. Et j'ai commencé mon nouveau roman qui est... Mon nouveau roman parle de l'Alexandrie. Parce que je pense qu'Alexandrie, c'est une ville à travers laquelle, au niveau romanesque, qu'on peut comprendre tout ce qui s'est passé en Égypte.
D'accord. Merci beaucoup, Alaa El Aswany, d'être passé par les studios d'Europe 1. À très bientôt.
À très bientôt. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chroniqueur Joseph Chovanec nous emmène contempler la beauté de l'hémisphère sud.
Europe 1.
Les carnets du monde.
Il est 13h52, Virginie Salmen. C'est l'heure de notre petit voyage en autistan sur Europe 1 avec, bien sûr, Joseph Chovanec.
Joseph, c'est notre chroniqueur voyageur autiste Asperger qui se nourrit de ses voyages nombreux pour s'émerveiller de la beauté du monde. Bonjour Joseph.
Bonjour Virginie, bonjour à tout le monde.
Alors vous qui voyagez dans des recoins insensés de la planète, vous nous faites découvrir aujourd'hui l'hémisphère sud.
Oui Virginie, aujourd'hui nous en fait les autistes surtout fêtons la journée mondiale des manchots. Ah. Hein. Ah, les manchots ont une particularité invisible. Ils n'habitent que dans l'hémisphère sud. Ce sont des grands voyageurs. Mm-hmm. Ils auraient pu s'installer dans le nord aussi. Eh ben non. Hein. Mais je les comprends. Moi aussi, je préfère l'hémisphère sud. Ah. C'est l'hémisphère autistique, hein, d'une certaine façon. Je suis né, j'ai grandi dans l'hémisphère nord. En franchissant l'équateur pour la première fois, c'est ma vie réelle qui a commencé, carrément, pour ainsi dire. Hein. Mais oui, qu'on en juge, l'hémisphère sud est beaucoup moins peuplé, j'allais dire pollué de bipèdes. Hein. Seulement un humain sur 10 habite l'hémisphère sud.
Oui, donc pas beaucoup d'habitants, mais ça, c'est pas la seule raison qui vous pousse à aimer l'hémisphère sud, Joseph.
Non, le ciel y est aussi beaucoup plus intéressant. Pendant mon enfance, j'étais passionné d'astronomie, évidemment. Mmh. Je maudissais le sort de m'avoir fait naître dans l'hémisphère nord.
À ce point-là.
Mais oui, le ciel étoilé de l'hémisphère sud a des particularités à faire pâlir, si j'ose dire, son maigre homologue nordique. Mm-hmm. Passons sur la célébrissime Croix du Sud. Mais juste à côté d'elle, dans le ciel du sud, il y a le sac à charbon. C'est une zone très sombre, presque noire, hein, sur le ciel, comme si quelqu'un avait volé les étoiles.
Donc ça, c'est la partie la plus obscure de la galaxie, c'est bien ça,
hein? Oui, et puis il y a aussi les deux nuages de Magellan. Mm-hmm. Hein, j'en avais rêvé pendant plus de 20 ans avant de pouvoir les voir enfin en vrai. Il s'agit de deux petites galaxies satellites de la nôtre, qu'on appelle la Voie lactée. Hein. Les voyageurs des temps anciens qui ont franchi l'équateur pour la première fois ont souvent rapporté le choc que la découverte du ciel leur avait causé, et je confirme.
Oui, ça a été aussi un choc pour vous.
Oui, le ciel et l'eau. Hein. Dans l'hémisphère sud, l'eau prédomine. Les grandes masses de terre sont plutôt dans l'hémisphère nord. Le sud, c'est le domaine des océans, des îles. Sur le plan de l'autisme, ça change tout.
Ah bon, pourquoi ?
Ben, pour vivre de façon durable, hein, sur les grandes masses continentales du Nord, il faut des murailles, des armées, des structures étatiques pour se protéger des envahisseurs, hein, tant bien que mal. Mais dans l'univers insulaire, en revanche, il y a toujours une petite île oubliée, paumée, couverte de palmiers pour vivre à l'écart du danger. Hein. De ce fait, beaucoup de gens bizarres ont trouvé refuge dans l'hémisphère sud.
Ah oui, donc des gens solitaire, un peu comme vous, finalement.
Oui, l'autre jour, je me suis retrouvé sur une île isolée au milieu de l'océan Indien. C'est l'île Rodrigue. Alors qu'on se dise les choses très clairement, hein, ce n'est pas sur l'île Rodrigue que vous souffrirez du burn-out. La vie s'écoule très, très paisiblement là-bas, très lentement. On se surprend soi-même à adopter un rythme de vie de tortue. Hein. Justement, sur l'île Rodrigue, il y a une vallée profonde, une ravine où le temps semble s'être totalement arrêté. Mmh. Dans cette ravine vivent des centaines de tortues géantes.
Wow.
Paisibles, on peut les caresser. Et vous avez soudain ce frisson qui vous parcourt l'échine. Cette tortue face à moi est peut-être née à l'époque de Napoléon.
Ah bon, c'est possible ça? Ça vit aussi longtemps que ça, une tortue?
Ah, parfois bien plus longtemps encore.
Ah oui.
Et quand elle vous regarde, vous avez en face une sorte de mémoire sage et silencieuse des siècles écoulés. Un habitant de l'île m'avait raconté que dans la ravine aux tortues désormais inhabitées, il y avait jusqu'à il y a quelques années un habitant humain. Un seul, une
un
sorte
seul.
D'ermite, peut-être autiste, mais bon, il n'y avait pas de diagnostic. Hein. Un jour, il y est mort. Et mon interlocuteur d'ajouter, en fait, cette espèce d'ermite vivait déjà au paradis avant sa mort, mais il ne le savait pas. Les tortues géantes de la ravine silencieuse, quant à elles, sans doute peut-être.
Oui, vous avez l'art de passer de la journée des manchots à la beauté éternelle de la ravine aux tortues. Merci Joseph Chovanec pour ce moment de poésie.
Merci, à très bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Merci d'avoir tourné avec nous les pages de ces carnets du monde. Un petit cadeau de fin, vous pouvez réécouter toutes les émissions, tous les reportages en podcast. C'est gratuit avec l'application Europe 1 sur votre smartphone. Merci à Sophie Mallier qui réalise cette émission, Florence Gimalac qui m'a aidé à la préparer. La semaine prochaine, vous retrouverez Sophie Larmoyer. D'ici là, bon dimanche.